La biodiversité samedi, le rendez-vous nature de Naz avec le syndicat mixte de la baie de Bournaz.
La biodiversité samedi, c'est un rendez-vous mensuel, premier samedi de chaque mois, avec un interlocuteur expert en son domaine, invité par le syndicat mixte de la baie de Bourneuf et son groupe Ramsar à venir sur 9FM. Évoquer tel ou tel sujet en lien évidemment avec la défense de la biodiversité, on parle de faune, de flore locale. Et aujourd'hui, nous recevons Jean-Guy Robin, responsable scientifique et technique des sites patrimoniaux de la Comcom Océan Marais-de-Mont. On va parler d'hirondelles. Bonjour Jean-Guy.
Bonjour.
Alors j'avoue ma surprise quand j'ai vu le thème du jour que m'a envoyé Julie Essager. Habituellement, les sujets collent vraiment aux saisons, à des problématiques saisonnières aussi. Moi, j'aurais imaginé un sujet sur les hirondelles au printemps et non pas du tout.
C'est vrai qu'on dit qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, donc on a plutôt tendance à parler des hirondelles à leur arrivée. Mais là, on est en plein départ. Elles sont en train de quitter notre territoire, donc c'est aussi un moyen de les regarder, de voir où elles partent et puis de réfléchir à leur retour, parce qu'elles vont revenir au printemps et il faudra leur laisser une place.
Alors nous parlons d'hirondelles au pluriel, car il y a plusieurs espèces qui viennent notamment sur votre beau territoire du Nord-Ouest Vendée. Vos connaissances, Jean-Guy, se sont développées au fil des ans par votre travail. Déjà, vous êtes beaucoup en extérieur, vous êtes un responsable scientifique, mais aussi en lien avec la LPO.
Alors, je suis un passionné d'ornithologie depuis tout petit, donc j'aimais bien regarder les oiseaux. Et les hirondelles, c'est un des premiers oiseaux qu'on va regarder parce qu'ils sont proches de l'homme, on les a dans nos bâtiments. C'est un bel oiseau aussi. Et puis, c'est vrai qu'on le voit au printemps. Donc, ornithologue depuis longtemps, j'ai eu la chance de pouvoir en faire mon métier et puis aujourd'hui de travailler sur la biodiversité du territoire. Et on a des hirondelles sur notre territoire. Il y a plusieurs espèces. Et il y a une autre espèce qui n'est pas une hirondelle, qui est le martinet. Mais souvent qu'on confond et qu'on met dans le groupe des hirondelles et qui a aussi l'habitude de vivre près des habitations.
Bon, on va en parler aussi effectivement du martinet, mais déjà ces premières espèces qui se distinguent, on parle des hirondelles de fenêtre, c'est un nom assez commun.
Donc sur le territoire, pour ceux qui veulent s'y intéresser, on peut voir assez communément trois espèces d'hirondelles. Donc l'hirondelle de fenêtre, avec son croupion blanc. L'hirondelle de cheminée, qu'on appelle aussi hirondelle de rustique aujourd'hui, qui est celle qui est la plus commune, qu'on peut trouver dans les bâtiments, les granges, des choses comme ça. Et puis, une troisième hirondelle de passage, qui ne niche pas sur notre territoire, mais qu'on peut voir en grande quantité en août, qui est l'hirondelle de rivage, qui niche sur les bords de Loire, dans le sable, et puis qui va traverser le marais breton et qui va se nourrir en grand nombre sur le marais à son passage au cours du mois d'août.
Alors, vous les distinguez physiquement déjà à l'œil?
Alors, ce sont trois espèces différentes. Donc, on va commencer par la plus commune, l'hirondelle de cheminée ou hirondelle rustique. Donc, celle que vous connaissez le plus souvent, elle a la gorge rouge, un peu brique. Elle a deux grands filets à l'arrière de la queue, c'est-à-dire deux grandes pointes, qu'on voit moins chez les jeunes, mais qu'on voit bien chez les adultes. Le mâle a d'ailleurs des filets plus longs. Et elle est bien sûr noire sur le dessus comme une toute hirondelle, blanc en dessous. Mais c'est vrai que c'est cette gorge rouge qu'on reconnaît assez facilement. Et puis après, c'est vrai que c'est l'hirondelle assez classique qu'on trouve dans les maisons.
La seconde?
Alors la seconde, elle est un peu moins commune, l'hirondelle de fenêtre. Elle va faire plutôt son nid à l'extérieur, sur le bord des murs. Elle va faire un nid très maçonné, plutôt fermé avec une petite ouverture, alors que l'hirondelle rustique fait un nid un peu comme une coupelle. Donc, hirondelle de fenêtre, un nid très maçonné, juste une petite ouverture, et elle a une couleur un peu plus bleutée dans son plumage, elle a un blanc très franc en dessous, et puis elle a le croupion blanc, et ça se voit très bien en vol. Et elle n'a pas ses deux filets à l'arrière. Donc c'est une espèce plus urbaine, elle va plus aller dans les bourgs, les choses comme ça, et sur le bord des bâtiments, lorsqu'il y a un bord de toit, elle se met sous le bord de toit, ou comme au Perrier parfois sous les lampadaires, mais on en reparlera tout à l'heure.
Oui, les fameux lampadaires et les fameuses hirondelles du Perrier. L'hirondelle de rivage, donc elle est un petit peu différente aussi.
Alors, hirondelle de rivage est une toute petite hirondelle, donc on ne voit que de passage, souvent en grand groupe. Elle est brune. Donc on la reconnaît un peu à sa couleur, elle n'est pas noire, elle a une couleur plus terne et elle est quand même plus petite, c'est une plus petite taille. Et là, elle a un cri bien particulier qu'on reconnaît facilement parce qu'elles ont souvent tendance, quand elles sont en groupe, à avoir des cris sociaux, elles crient tout ensemble. Et ce cri-là, on le reconnaît bien, c'est un petit cri qui n'est pas facile à imiter mais qui est un genre de grésillement.
Ben moi, j'aurais bien aimé que vous l'imitiez. Justement, chaque espèce a son propre cri. C'est important, le chant de l'hirondelle.
Oui, alors, chez les oiseaux, c'est un bon moyen de les observer. C'est de aussi les écouter et pour les repérer. Et c'est vrai que chaque hirondelle a un chant ou un cri spécifique. On les reconnaît souvent plus au cri qu'au chant, parce que le chant, c'est qu'une période de l'année pour la reproduction. Mais c'est vrai que chaque hirondelle a un cri. Et ce cri est assez facile à identifier quand on a pris l'habitude de les observer.
Oui, c'est ça, mais si on ne sait pas faire, comment on apprend tout ça?
Alors aujourd'hui, on est dans le monde moderne, donc il y a des tutos sur Internet pour pouvoir reconnaître les chants et s'entraîner. Et puis après, sur le terrain, avec des personnes qui connaissent bien les chants, et puis en observant, on arrive très vite à se faire l'oreille. Le terrain, c'est ce qui permet la plupart du temps de bien caler son oreille, voire même l'oreille perd un peu d'une année à l'autre. Donc souvent, eh bien, c'est bien de s'y remettre au printemps sur certaines espèces qu'on a plus oubliées ou que l'oreille a plus oubliées.
C'est pas mal ça, on s'exerce aussi. Un mot tout de même sur le martinet, ce n'est pas une hirondelle, mais on les confond souvent.
Oui, alors souvent, c'est vrai que le martinet, on le confond avec les hirondelles parce que c'est une espèce noire avec des ailes un peu en forme de faux. C'est quand même un oiseau beaucoup plus grand, qui a une biologie bien particulière parce qu'il se pose quasiment jamais. Il est quasiment complètement sauvre, sauf un petit peu de blanc sous la gorge. C'est quand même un oiseau qui arrive un petit peu plus tard, qui est un grand migrateur, qui repart plus tôt. Lui qui a un cri bien particulier et qui est très citadin aussi, qui va nicher dans les vieux bâtiments. Donc souvent les gens le mettent dans le groupe des hirondelles. C'est pas vraiment une hirondelle, mais c'est très proche. Et du fait de sa biologie aussi, de vivre proche de l'homme, c'est une espèce qui est intéressante aussi quand on essaie de conserver des vieux bâtiments pour ces espèces ou un espace pour ces espèces près de l'homme.
Alors comment évoluent dans leur vie ces petites hirondelles? Quel est le cycle de vie? On va faire une petite pause, Jean-Guy, on vous retrouve dans 3 minutes sur 9FM. FM, vous êtes bien dans la biodiversité samedi avec Jean-Guy Robin, responsable scientifique des sites patrimoniaux de la communauté de communes Océan-Marais de Mont. On parle des hirondelles, vous êtes déjà venu pour d'autres sujets, Jean-Guy. Et on évoquait avant la pause le fameux cycle de vie de ce petit oiseau migrateur. Alors, où naît-il en priorité, j'imagine en Europe, à quelle période de l'année, où je me trompe complètement?
Alors, des hirondelles, on en a partout sur le territoire des Pays de la Loire. C'est bien sûr une espèce qu'on trouve en Europe. Et c'est une espèce qui a une particularité, c'est qu'elle est migratrice. Alors, elle est migratrice parce qu'elle est insectivore. Il serait qu'en hiver, sur nos territoires, il y a très peu d'insectes. Donc, elle se retrouve plutôt dans le sud de l'Europe, voire en Afrique, durant l'hiver. Il y a quelques individus qui arrivent à passer l'hiver sur nos territoires, mais elle est liée à ce cycle de migration, donc plutôt sur le sud de l'Europe, l'Afrique en hiver, et elle remonte sur l'ensemble de l'Europe au printemps. Nous, sur nos territoires, on va la voir arriver les premières en février, mais c'est plutôt courant mars, pour s'installer tranquillement et faire leur reproduction durant l'été. Elle peut le faire plusieurs nichées et après repartir en ce moment. Là, donc, j'en ai vu qui étaient sur la route en arrivant à la radio. Elles sont encore présentes sur le territoire, elles sont en pleine migration, mais elles vont descendre progressivement vers le sud de l'Europe et puis vers l'Afrique.
Là, on est au tout début de l'automne, quoi, donc les températures sont encore clémentes.
Alors c'est vrai qu'elles étaient en train de moucheronner hein, sur le bord de la route, au-dessus des arbres, donc elles étaient en train de se nourrir, il y a encore des insectes. Mais ces insectes sont importants aussi pour leur migration, c'est vrai qu'elles vont mettre beaucoup d'énergie dans cette phase de migration, et elles continuent à se nourrir tout au long de la migration, et pour arriver sur leur lieu d'hivernage, où là, elles pourront se nourrir durant tout l'hiver.
Donc le petit oiseau naît en tout cas ici, hein, en Vendée, et après, au bout de combien de temps il est à peu près autonome? On le sait, ça, on connaît un petit peu le cycle.
Une jeune hirondelle va être volante au bout de 3 semaines à peu près, ce qui est assez rapide. Hein. Et puis après, donc ça va dépendre de quelle période dans la saison on est, mais les premières vont rester après tout l'été sur le territoire. Et après, il y a des rassemblements d'hirondelles et elles partent souvent en groupe vers le sud. Il y a une forme d'envol de masse, en fait. Alors sur ces jeunes hirondelles, on a des programmes de bagages pour avoir des retours sur la mortalité. Il y a quand même beaucoup de mortalité chez les jeunes parce que la migration, c'est pas négligeable. Il faut apprendre à se nourrir, il faut pas se perdre sur le trajet. Par contre, lorsqu'on a des individus qui ont réussi à faire au moins un cycle migratoire, après les adultes peuvent vivre plus longtemps. Mais bon, l'espérance de vie d'une hirondelle, c'est quelques années, c'est pas énorme. C'est le souci qu'on a, c'est ces espèces. C'est des espèces qui ne sont pas longues et vives, qui vivent peu de temps. Donc si on a une année où il y a beaucoup de mortalité, elles ont beaucoup de mal à rattraper la perte de population d'une année sur l'autre, parce qu'il n'y a pas d'individus qui vont survivre ou d'adultes qui vont vivre très longtemps. Donc, c'est des espèces qui ont des cycles très courts, et il suffit qu'il y ait 2-3 mauvaises années, et bien très vite, la population chute.
Et là, on est dans une phase un peu difficile, dans une phase un peu de déclin depuis plusieurs décennies d'ailleurs.
Alors, ces espèces qui sont insectivores, le gros souci qu'on a, c'est qu'on a une chute assez forte des quantités d'insectes disponibles sur nos territoires depuis plusieurs années. Et toutes ces espèces insectivores, on voit qu'elles ont beaucoup de mal à faire leur cycle de reproduction parce qu'elles manquent de nourriture, en fait. Et les milieux et la nourriture disponible ne l'est pas, donc elles n'arrivent pas à faire leur cycle de vie. Donc, on a des quantités de ces espèces qui chutent. En marais breton, sur les sites qu'on connaît, ça se passe plutôt bien aujourd'hui, même si on a des choses qui diminuent, parce qu'on a quand même encore des ressources, on dit trophiques, des ressources alimentaires qui sont intéressantes avec les zones de marais. Mais l'hirondelle, en général, en Europe, a tendance à diminuer, oui, les quantités d'hirondelles.
On en reparlera avec également pas mal d'actions qui sont effectuées dans le marais breton pour les préserver. Un mot sur leur comportement social. Donc, on voit quand elles partent, elles sont ensemble, en groupe. Et quand elles sont là, plusieurs mois en Vendée, ce sont des couples qui vivent ensemble, des groupes ou pas du tout?
Alors, c'est pas évident. Le bagage est intéressant pour ça parce qu'il n'est pas toujours évident de saisir le fonctionnement des espèces d'oiseaux en général. Les couples chez les oiseaux sont souvent constitués, mais ils ne sont pas forcément complètement fermés. C'est-à-dire que dans un même nid, tous les œufs ne viennent pas forcément du même couple. C'est-à-dire que la femelle va pondre, mais le mâle n'est pas forcément le mâle qui est près du nid. Il peut y avoir de la porosité génétique. On pourrait être plus technique. Et ensuite, donc la spécificité des hirondelles, comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des espèces qui ne vivent pas très longtemps, donc elles vont faire beaucoup de petits. pour essayer de renouveler les générations, même s'il y a pas mal de petits qui vont mourir lors de la première année, lors de la migration, eh bien le fait d'en faire beaucoup chaque année, ça permet de pouvoir renouveler la population et de la maintenir. Mais il faut qu'il y ait assez de nourriture et qu'il n'y ait pas d'écueil lors de la migration.
Alors justement, quel est le rôle de l'homme et comment nous on peut effectivement œuvrer pour les hirondelles? On va aussi parler de leur proximité à l'homme qui est réputé, elle a une importance, et puis de ces fameuses actions, ces fameux lampadaires par exemple, qui ont été adaptés, notamment au Perrier, pour permettre aux hirondelles de nicher. Dans 3 minutes, on se retrouve avec Jean-Guy Robin.
Vu la mer au creux des vagues, ça n'allait pas.
Ça n'allait pas.
Le cœur serré, couler les larmes, ça n'allait pas.
Ça n'allait pas.
J'ai fait la guerre aux vagues à l'âme, sous l'eau, sous les d'être comme ça. J'ai vu la terre tourner sans moi, ça n'allait pas. Tu m'as dit pas se changer d'air et ça ira.
Et ça ira.
Fais de la place à la lumière et ça ira.
Et ça ira.
Tu m'as dit toi qui m'as connu, rire aux éclatants que j'ai pu, ce que j'attendais d'une amie. Oh tu m'as dit, la vie c'est maintenant, on n'a pas de temps, pas de regrets ni de rancœur, la tête ailleurs, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant, on voit les choses en grand, on dégomme la douleur, mais et du cœur, mais et du cœur. Fais rage dans tes yeux, sois sûr de ça.
Sois sûr de ça.
Autant de courage pour deux, sois sûr de ça.
Sois sûr de ça.
Et si l'hiver est de passage, on sait pour mieux tendre les bras. Se rassurer quand c'est trop dur, sois sûr de ça. La vie c'est maintenant, on n'a pas de temps, pas de regrets. Ça va, dis-le-moi, dis-le-moi. C'est aussi ça, hausse la voix, hausse la voix. Ou si ça va, moi ça me va, moi ça me va. C'est aussi ça, un ami pour moi. La vie c'est maintenant, on n'a pas le temps. Pas de regrets ni de rancœur, la tête ailleurs, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant. On voit les choses en grand, on dégomme la douleur, mais y du cœur, mais y du cœur. La vie c'est maintenant, la vie c'est maintenant. On n'a pas le temps, la vie c'est maintenant, la vie c'est maintenant.
La biodiversité samedi, c'est sur 9FM, mais c'est consacré aujourd'hui, 1er octobre, aux hirondelles. Nous parlons avec Jean-Guy Robin, ce petit oiseau migrateur fascine les hirondelles. Ces espèces sont proches de l'homme, nous dites-vous. Elles recherchent même la cohabitation, ça depuis toujours.
Alors, on pense que les hirondelles, à l'origine, vivaient plutôt dans des systèmes de type grotte, c'est-à-dire qu'elles faisaient leur nid dans des zones rocheuses. Et puis c'est vrai qu'il y a eu une coévolution entre l'homme et ces espèces-là, et elles se sont progressivement installées sur les habitations. Et aujourd'hui, c'est leur milieu de vie, même si c'est un milieu qui n'est pas naturel. Donc aussi bien l'hirondelle rustique que l'hirondelle de fenêtre que le martinet vivent sur nos bâtiments et à côté de nous. Alors ça peut créer des conflits d'usage ou des problèmes lorsqu'on veut restaurer un bâtiment. Aujourd'hui en France, où ces espèces ont plutôt tendance à décliner, et bien on essaie de trouver de plus en plus de solutions pour faire cohabiter et les activités humaines et la présence de ces espèces. Donc il y a des moyens, ça permet, il y a des réflexions qui sont menées, on peut mettre des nids artificiels, on peut travailler sur les périodes de restauration des bâtiments, on peut essayer d'en conserver certains, mais ce travail, il faut être vigilant et essayer de leur conserver leur zone nidification, parce que ce sont des espèces qui souvent sont assez fidèles à leur lieu d'installation, et c'est vrai que si on enlève les nids, l'année d'après, elles vont essayer de revenir et de reprendre la même zone. Donc il faut être vigilant à cette spécificité et pas leur faire perdre trop de temps, parce que ce que je dis tout à l'heure, c'est qu'elles ont un cycle court. Donc si elles perdent 3 années de reproduction, eh bien en fait les individus ont perdu leur cycle de vie en fait. Donc on va perdre un petit noyau de population. Donc il y a tout un travail qui est fait, qui peut être fait avec les communes pour essayer de conserver les noyaux de population et trouver une solution pour concilier et l'entretien du bâtiment et la présence de ces espèces.
Vous êtes vigilant, vous, avec Océan Marais de Mont, sur ce sujet ?
Alors, sur Océan Marais de Mont, on a lancé depuis l'année dernière, au travers du territoire engagé pour la nature, un travail d'inventaire participatif, et entre autres sur les hirondelles. On estime que la meilleure solution pour protéger les espèces, c'est de bien les connaître. Je pense que tout le monde aujourd'hui aime les hirondelles et est heureux de les entendre et de les voir sur son bâtiment. Et l'idée, c'est d'identifier où elles sont et puis après d'essayer de trouver des solutions pour qu'on puisse les conserver, de trouver les bonnes périodes où faire les travaux, ne pas les faire quand elles sont en train de nicher. Et puis s'il y a des nids et qu'on est obligé de les enlever, et bien trouver des solutions alternatives qui existent. Hein. On peut installer des nids sur un autre secteur, à quelques mètres, les inciter avec des nids pré-maçonnés à s'installer sur le, même si ça fonctionne pas toujours, hein. Mais toujours essayer de trouver une solution alternative et un mix entre l'activité humaine et la présence de ces espèces. Alors, au Perrier, c'est un petit peu particulier, c'est que les hirondelles ne sont pas que installées sur des bâtiments, mais elles sont installées aussi sur des lampadaires. Alors, ce qui nous a compliqué un peu la tâche, parce que les lampadaires, par définition, ils sont là pour éclairer et régulièrement, on change les ampoules et leurs nids sont installés sur les ampoules. Donc, ça a été tout un travail avec la commune, le CIDEV, pour essayer de trouver une solution pour ne pas avoir à enlever ces ampoules et à détruire les nids en période de reproduction, voire essayer au maximum de conserver les nids sur les lampadaires qui étaient les plus fonctionnels, où il y avait plus de nids, il y a jusqu'à 4-5 nids par lampadaire. Donc on a trouvé cette solution-là. Aujourd'hui, le CIDEV nous a proposé des lampes alternatives qu'on installe un peu plus bas, et sur les lampadaires les plus intéressants pour cette espèce-là, on laisse la lampe, qui ne fonctionne plus, hein, et on garde les 5 nids, pour qu'elles puissent revenir d'une année sur l'autre et puis et faire leur cycle de vie.
Ça a juste démarré cette année au Perrier.
Oui, donc les premières lampes alternatives ont été posées, vous pouvez les voir dans la rue principale du Perrier, ont été posées l'année dernière. Ça a bien fonctionné parce que les individus nichaient au-dessus cet été. Et puis l'idée aussi sur le Perrier, c'est vrai qu'on va aussi réfléchir, là on réfléchit à court terme, mais on va réfléchir à moyen, à long terme, c'est de voir comment est-ce que cette petite population, qui est une population qui est intéressante, hein, plus de 30 couples sur la commune, ça anime vraiment le bourg, hein, durant l'été. Comment est-ce qu'on peut lui trouver une solution peut-être alternative aux lampadaires, parce qu'on ne gardera pas les lampadaires ad vitam aeternam. Hein.
Alors ça tombe bien, ce week-end c'est la fête du terroir au Perrier, donc on peut vérifier tout ça, peut-être certaines hirondelles sont encore présentes, donc n'hésitez pas à aller rue principale voir ces fameux lampadaires. En tout cas au printemps vous avez compté effectivement avec la LPO, avec les habitants, ces oiseaux, vous avez déjà un bilan effectivement sur ce comptage ?
Alors l'idée c'est de pouvoir le faire chaque année, donc ce que je dis, on a une trentaine de couples et d'une année sur l'autre voir si on garde le même niveau de population et aussi si les actions qu'on est en train de mener permettent voir peut-être d'augmenter aussi la population d'hirondelles de fenêtres sur la commune du Perrier.
Et pourquoi pour vous c'est important justement de faire attention à ces oiseaux en particulier, de les préserver ?
Je pense que c'est alors la biodiversité, il y a un aspect scientifique, il y a des intérêts économiques aussi parce que c'est elle qui nous apporte toute notre économie en termes de ressources naturelles et tout ça. Il y a aussi un aspect culturel et aussi de plaisir. Et c'est vrai que de voir les hirondelles qui sont encore en train de voler sur notre territoire en montant vers Beauvoir-sur-Mer, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, hein, la biodiversité. Et c'est un plaisir de tous les jours. Et les voir qui arrivent au printemps, qui repartent, enfin ça fait partie de notre cycle de vie. C'est un vrai plaisir.
Et puis le rôle d'insectivore, j'imagine, c'est pas anodin. Ça, c'est important quand même aussi pour l'humain.
Alors c'est sûr que en termes de services rendus par la nature, toutes ces espèces-là peuvent avoir un rôle, d'autres en ont pas, mais il y a un fonctionnement global de notre territoire, oui, qui est lié à cette biodiversité.
Qu'est-ce qu'on peut ajouter là sur les rondelles qu'on n'a pas encore dit, peut-être un dernier mot sur ces espèces à suivre. Donc, elles vont partir là, vers l'Afrique, vers le sud de l'Europe, avant leur départ.
Et ben, si vous voulez les voir partir, vous pouvez aller aussi dans le sud de Vendée. Il y a entre autres à la Pointe de l'Aiguillon le suivi de la migration. Et là, on en voit plusieurs centaines qui passent sur les bonnes journées et qui descendent vers le sud. Et ça se voit en direct. On voit la migration en cours et c'est un vrai spectacle.
D'hirondelles et d'autres espèces, évidemment.
Oui, bien sûr. Donc, on voit la migration de toute espèce. Et puis, il y a un cycle aussi. Il y a les premières espèces à descendre. Et puis, petit à petit, on passera vers d'autres jusqu'à la fin quasiment de l'automne.
Donc, à l'Aiguillon, évidemment. Alors, on va terminer l'émission avec cette fameuse question que je pose. Alors, pendant des mois, j'ai demandé pourquoi défendre la biodiversité. D'ailleurs, vous aviez répondu. Aujourd'hui, on passe un petit peu au comment. Et surtout, quel enjeu incontournable, eh bien, on doit vraiment prendre en compte. À côté de quoi on ne doit pas passer pour vous et selon vous pour lutter pour la préservation de la biodiversité?
Alors, je pense que c'est quelque chose de tout simple. La biodiversité, on n'arrivera pas à la sauver sans, surtout sur nos territoires où il y a beaucoup de monde, sans un travail en commun. Et je pense que le travail, c'est vraiment la sensibilisation. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec des émissions comme celle qui a 9FM. Et je pense que chacun, le matin, en se levant, peut se dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour la biodiversité, ou comment je peux la diffuser, ou comment je peux la regarder. Et je crois que le fait d'avoir un œil attentif et bienveillant sur cette biodiversité, c'est le plus important.
Alors chaque matin, on se réveille en se posant cette question. Merci beaucoup, Jean-Guy Robin. On vous retrouve évidemment toute l'année sur le territoire d'Océan Marais de Mont. En ce moment, même d'ailleurs toute l'année au Davio, globalement.
Sur le territoire d'Océan Marais de Mont, oui, aussi.
Sur plusieurs sites. Et on retrouve aussi cette émission très vite en podcast sur le site de 9FM et sur l'appli en rubrique La biodiversité samedi. Très bon week-end à vous.